Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et au sommaire de l'édition de la nuit, le président de la République préside l'ouverture de la nouvelle année judiciaire. Poursuivre les efforts visant à moraliser l'action judiciaire et la promouvoir en termes de qualité et d'efficacité qu'a fixé et réitéré par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, annonce la promulgation du statut de la magistrature avant fin 2025. Sécurisation de nos frontières, la lutte contre la criminalité organisée, notamment antiterroriste. Les réalisations de l'ANP reflètent son engagement à se dresser en rempart imprenable face à toute atteinte à la sécurité de la nation. C'est la trame de l'éditorial de la revue El Jaysh dans son numéro du mois d'octobre. Coopération militaire algéro-américaine, accostage du destroyer américain USS Roosevelt au port d'Alger. Un exercice maritime conjoint sera exécuté en haute mer. Échange de prisonniers prévu demain lundi. L'Égypte abrite également un sommet pour la paix à Gaza présidé par les présidents égyptiens et américains. Deux jours après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste, plusieurs camions d'aide humanitaire commencent à arriver dans la bande de Gaza ce dimanche. Célébration du 50e anniversaire de la journée de l'unité nationale sahraoui, le soutien international aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination réitérée, le Marzen continue à essuyer des revers. Et puis la France n'est pas au bout de sa crise politique. Le Premier ministre reconduit Sébastien Lecornu à présenter ce soir sa nouvelle équipe. Un gouvernement à qui la classe politique promet déjà une mention de censure. Il y aura également du sport, football avec la sélection nationale des A' qui poursuit sa préparation. Annabal affrontera demain la Palestine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mais avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Thani, suite au décès de trois diplomates, membres du Diwan émirien, dans un accident de la route survenue à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Le président de la République qui a présidé l'ouverture de la nouvelle année judiciaire ce dimanche, l'occasion pour Abdelmadjid Tebboune d'annoncer la promulgation du statut de la magistrature avant fin 2025, poursuivre les efforts visant à moraliser l'action judiciaire et à la promouvoir en termes de qualité et d'efficacité, credo réitéré par le premier magistrat du pays, Sofia Boukacha.
Le président de la République rappelle l'importance des réformes engagées pour consolider l'état de droit. Il appelle à une adaptation des textes de loi aux réalités actuelles avec une vision tournée vers la justice économique et la protection de l'investissement.
تسير ببطء نظرا لربما سوء فهم بعض التصرفات وسوء فهم بعض القرارات اذا لازم نصيب سير
Le chef de l'État appelle à renforcer la prise en charge des magistrats et à poursuivre les efforts de moralisation du secteur. Il annonce par ailleurs la promulgation du statut des magistrats avant la fin de l'année en cours. Le premier magistrat du pays salue les progrès réalisés par le secteur de la justice dans sa transition vers le numérique. Pour le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, la véritable justice doit avant tout reposer sur l'écoute, la proximité et l'interaction positive avec le citoyen, tout en renforçant la lutte contre la corruption et en améliorant la qualité du service public.
À propos de qualité, justement, la numérisation, cheval de bataille, nous lisions pour la modernisation du secteur, un impératif rappelé également par le ministre de la Justice, Samy Allouna.
Un défi permanent qui exige un engagement collectif. C'est ainsi que le ministre de la Justice a évoqué la stratégie de numérisation de son secteur pour renforcer davantage la transparence, lutter contre la bureaucratie et pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. Lotfi Boujma, ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Nous avons veillé à mettre en œuvre les orientations du président de la République visant à concrétiser la transformation numérique sur le terrain, notamment dans la gestion du service public. La feuille de route mise en œuvre dans ce cadre repose sur plusieurs axes essentiels, l'amélioration de la qualité de la performance du service public, la généralisation de la transformation numérique du secteur par l'introduction des TIC, ainsi que l'instauration d'une justice efficace et rapide grâce à une meilleure préparation, la simplification des procédures judiciaires et le rapprochement de la justice des citoyens.
Le nouveau code de procédure pénale vise justement à moderniser le système judiciaire et à adapter les procédures pénales aux défis modernes. Erdouane Manzaroug, expert judiciaire spécialisé en informatique.
L'automatisation des tâches, enregistrement, notification et classement libère du temps pour les magistrats et greffiers, plus particulièrement avec la nouvelle loi des procédures pénales pour alléger le procureur qui aujourd'hui est un passage obligatoire de la plainte devant le procureur qui doit faire une procédure durant les 4 mois à compter du dépôt de la plainte. Il y a aussi à prendre en compte la gestion électronique des dossiers qui permettra un suivi en temps réel et limiter les pertes ou retards liés aux archives papier. Et à l'avenir, l'intelligence artificielle pour l'analyse des données légal pour mieux comprendre les tendances jurisprudentielles.
Une stratégie qui s'appuie à la fois sur les TIC et sur une ressource humaine compétente, formée pour moderniser la justice, synonyme de concrétisation des réformes.
23h06 sur les ondes d'Alger 3, les réalisations de l'Armée nationale populaire reflètent son engagement à se dresser en rempart imprenable face à toute atteinte à la sécurité de la nation, a le souligné la revue El Jaysh dans l'éditorial de son numéro de ce mois d'octobre, Ibtihal Adouna.
Dans son édition du mois, la revue El Jaysh consacre son éditorial à la solidarité institutionnelle et à la vigilance stratégique de l'Armée nationale populaire. L'édito insiste notamment sur la capacité d'adaptation de l'ANP face aux nouvelles formes de menaces, qu'elles soient cybernétiques, hybrides ou technologiques, tout en soulignant la fidélité indéfectible de l'institution militaire au message du 1er novembre 1954. L'édito met également en exergue la victoire décisive de l'Algérie sur le terrorisme, fruit d'une approche multidimensionnelle conjuguant rigueur opérationnelle, prévention et réinsertion. Cette expérience désormais reconnue à l'échelle internationale fait de l'Algérie un modèle dans la lutte contre le terrorisme transfrontalier. Par ailleurs, la revue revient sur les récentes opérations menées par les unités de l'ANP dans la 5e région militaire, saluant la bravoure et le professionnalisme des troupes qui ont neutralisé plusieurs terroristes et sécurisé d'importantes zones frontalières. Enfin, El Jaysh conclut son éditorial sur une note d'unité et de confiance. L'Algérie avance résolument sur la voie de la stabilité et du développement, portée par la cohésion entre le peuple, l'État et son armée, gardien de la souveraineté nationale et garante de la paix durable.
Coopération militaire algéro-américaine, accostage du destroyer américain USS Roosevelt au port d'Alger, accostage dans le cadre de l'exécution du programme militaire bilatéral. L'escale s'étalera jusqu'au 16 du mois lors de la visite de courtoisie effectuée au commandant de la façade maritime centre de la première région militaire. Les deux pays ont évoqué le renforcement de la coopération et l'échange d'expertise. Dans ce contexte, un exercice maritime conjoint de type PASEC sera exécuté en haute mer avec la participation de la frégate multimission RAD 2 des forces navales algériennes et le destroyer USS Roosevelt, exercice qui vise l'échange d'expériences dans les domaines des manœuvres, de la coordination opérationnelle, des communications maritimes et des opérations de sécurité en mer. Sifi Gharib s'entretient par téléphone avec son homologue égyptien Mostafa Medbouli. Les discussions portées sur le suivi des résultats de la conversation téléphonique entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue égyptien Abdel Fattah Sisi. C'était le 8 octobre courant. À cette occasion, le président du Conseil des ministres égyptiens a souligné la profondeur des liens entre l'Algérie et l'Égypte, saluant l'estime et le respect dont jouit l'Algérie auprès de la direction, du gouvernement et du peuple égyptien, insistant sur l'importance de l'action commune afin de développer la coopération bilatérale dans divers domaines. Le Premier ministre Sifi Gharib a pour sa part réaffirmé l'importance de consolider et d'intensifier la coopération bilatérale, soulignant la nécessité d'une bonne préparation de la 9e session de la Grande Commission mixte algéro-égyptienne. L'Algérie a prend part en Afrique du Sud aux travaux de la réunion du groupe de travail du G20 sur la réduction des risques de catastrophes. Pour la première fois d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et des Transports, Saïd Saïoud, a rencontré à l'occasion le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes et chef du bureau de l'ONU pour la prévention des catastrophes, Kamel Kishour. Saïd Saïoud a mis en exergue les efforts déployés par l'Algérie en matière de prévention et de gestion des catastrophes, soulignant la révision du cadre juridique ayant permis d'intégrer les mécanismes adaptés aux nouveaux enjeux. L'expérience algérienne a été saluée également par le responsable onusien, qui pour sa part a appelé à la partager à l'occasion des travaux de cette rencontre, notamment en matière de prévention ou d'investissement dans la réduction des risques et de prise en charge des victimes lors de catastrophes. Deux jours après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité sioniste, plusieurs camions d'aide humanitaire transportant du gaz et du carburant sont arrivés dans la bande de Gaza ce dimanche, une lueur d'espoir pour une population affamée d'ailleurs. Il faudra plusieurs centaines de camions chargés d'aide pour subvenir à leurs besoins. Les détails depuis l'enclave palestinienne avec le journaliste palestinien Wissam Abou Zaid. Il a été contacté par Lias Terghini.
Des dizaines de camions chargés d'aide humanitaire et de marchandises commerciales commencent à entrer dans la bande de Gaza. Ces convois appartiennent à plusieurs organisations internationales. Parmi ces cargaisons, 10 camions transportent du carburant et du gaz domestique, ce qui permettra enfin aux habitants de cuisiner au gaz plutôt qu'au bois. Cette reprise partielle des livraisons est perçue comme un signe d'espoir, mais les besoins restent immenses dans plusieurs secteurs essentiels, notamment le secteur de la santé, qui appelle urgemment à l'entrée de matériel médical destiné aux malades et aux blessés palestiniens. Les municipalités, de leur côté, réclament également l'entrée de matériel lourd afin de retirer les décombres et de rechercher près de 9000 Palestiniens portés disparus. Pour l'heure, aucun chiffre officiel n'a été communiqué sur le nombre exact de camions entrés aujourd'hui, mais les convois ont bel et bien commencé à circuler et un suivi régulier sera mis en place pour évaluer les quantités livrées et les besoins réels des Palestiniens.
Et puis les présidents égyptiens et américains présideront demain, lundi, à Sharm el-Sheikh, un sommet pour la paix à Gaza en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'objectif est de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et de renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Une question, est-ce qu'on peut s'attendre à une solution qui garantit les intérêts de la population de Gaza? Élément de réponse avec Adnan Limam, professeur de droit public et des relations internationales. Il répond à Diestrini.
Il est très vraisemblable, cependant, que la guerre reprenne après la libération des prisonniers de guerre. Il est très vraisemblable que les négociations vont buter sur la question du désarmement du Hamas, du démantèlement des structures militaires de la résistance. Cela équivaudra à liquider et enterrer définitivement la cause palestinienne. L'entité sioniste n'a jamais respecté les accords signés, même s'ils sont garantis par les États-Unis, puisque les accords d'Oslo ont été signés sous les auspices des États-Unis, mais sur le plan de l'application, il n'en fut rien du tout.
Et à l'autre peuple qui lutte pour son indépendance, le peuple sahraoui, les célébrations marquant le 50e anniversaire de la journée de l'unité nationale sahraoui ont débuté ce dimanche dans la wilaya d'Ousser, en présence du président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Par ailleurs, à cette occasion toujours, l'ambassadeur sahraoui âgé a rappelé la résistance et les sacrifices du peuple en cours de ces 5 dernières décennies, affirmant poursuivre le combat jusqu'à l'indépendance et la souveraineté totale de la République sahraoui démocratique. Khatri Addou, ambassadeur sahraoui en Algérie, au micro de Mehdi Addaoui.
Le peuple sahraoui, après 50 ans de résistance, de sacrifice, il est en train de renouveler cet esprit, cette volonté pour continuer la lutte jusqu'à consacrer ses droits légitimes non seulement à l'autodétermination, mais à l'indépendance aussi, à la souveraineté totale et définitive de la République arabe sahraoui démocratique. La lutte sur tous les aspects, aussi bien la lutte armée parce que c'est légitime, mais aussi la lutte sur le plan politique, diplomatique, sur le plan droit international, droit international humanitaire sur tous les fronts. C'est une lutte qui va continuer jusqu'à la totale indépendance et l'intégrité territoriale souveraine de la République arabe sahraoui démocratique.
Au niveau onusien, les représentants du Conseil de la Nation, membres de la délégation parlementaire conjointe des deux chambres du Parlement, participant aux travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, ont réitéré depuis New York la nécessité de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. La délégation marocaine est devant l'appui apporté à la question sahraoui lors de ce rendez-vous onusien a tenté une fois de plus de perturber le débat. Linda Bradman.
La délégation marocaine a encore brillé par l'agressivité de ses représentants face aux intervenants sahraouis ou favorables à la cause et son manque de professionnalisme. En effet, la délégation marocaine a multiplié les interruptions et les tentatives de perturbation allant parfois jusqu'à l'insulte. Sidi Mohamed Ammar, représentant du Polisario aux Nations Unies et coordinateur avec la MINURSO, a déclaré que les interruptions répétées du représentant marocain montrent son désarroi et son incapacité à contrer les témoignages présentés sur les violations commises au Sahara occidental. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le Maroc ait recours à ces pratiques, pour le moins contraires aux principes de la bienséance et d'une diplomatie constructive. La semaine dernière, le Marzen a tenté de perturber l'intervention de la délégation sahraoui au congrès de la jeunesse arabe africaine en Ouganda, ou encore l'année dernière à Tokyo, rappelez-vous, lorsque l'ambassadeur de la RAST à l'Union africaine a été victime d'une agression physique de la part de la délégation marocaine.
Le peuple sahraoui est un long combat pour l'indépendance. Le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même a été souligné lors d'un débat organisé à l'occasion de la 2e conférence internationale pour la paix tenue dans la ville de Vitry-sur-Seine, dans la région parisienne en France, et dont il a affirmé le soutien d'effectifs de sa municipalité et de son conseil municipal au peuple sahraoui et à sa lutte légitime pour l'indépendance. Par ailleurs, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, CODESA, a dénoncé la tenue d'un forum économique franco-marocain d'Akhla occupé, organisé conjointement par le mouvement des entreprises de France, le MEDEF, et la Confédération générale des entreprises du Maroc dans un communiqué. CODESA a qualifié cette initiative de provocation flagrante et de violation manifeste du droit international, marquant un mépris total des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. À propos de la France, un pays qui n'est pas au bout de sa crise politique, le Premier ministre reconduit Sébastien Lecornu a présenté ce soir sa nouvelle équipe gouvernementale, un gouvernement de mission pour donner un budget à la France avant la fin de l'année, un gouvernement à qui la classe politique promet une motion de censure dès demain d'ailleurs, une crise politique qui a coupé par ailleurs les ailes à l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec une crise au sein du Parti des Républicains qu'il préside. 6 membres de son camp ont fait fi des consignes du parti en décidant d'intégrer l'équipe Lecornu. C'est le discrédit pour Bruno Retailleau, Liesterini.
En l'espace d'une semaine, Bruno Retailleau du parti Les Républicains a vu s'effondrer le capital politique qu'il avait construit depuis des années à coups de mensonges vis-à-vis de ses propres concitoyens et qui a fait de l'émigration et de la détestation de l'étranger un fonds de commerce. La semaine dernière, tout s'est brusquement retourné contre Retailleau. Une communication mal maîtrisée, des divisions internes et surtout une stratégie jugée floue par plusieurs cadres du parti, c'est ce qui a précipité sa chute. Selon la presse française, les tensions se sont multipliées entre Bruno Retailleau et certains élus de son camp, notamment sur la ligne à adopter face au gouvernement. Résultat, un parti fracturé, une direction affaiblie et un chef contesté jusque dans ses propres rangs. Les sondages le confirment, sa popularité est en forte baisse. Bruno Retailleau tente de sauver ce qui peut encore l'être, mais la tâche s'annonce difficile.
L'actualité, c'est également le président malgache André Rajoelina qui a déclaré ce dimanche qu'une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force contrainte à la constitution était en cours dans le pays, théâtre de manifestations anti-gouvernementales. Retour chez nous, le gouverneur de la Banque d'Alger, Salah Ad-Din Taleb, qui participera à partir de demain à Washington aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et à propos de finances, la commission d'organisation de surveillance des opérations de bourse, la COSOP, a publié aujourd'hui son rapport annuel 2024. Une année marquée par une transformation profonde. La COSOB a affirmé que le marché financier a connu une évolution sans précédent en 2024 avec une hausse de la capitalisation boursière à 521 milliards de dinars. Et nous arrivons à notre page sport avec nous ce soir, Hamza Rahmouni. Bonsoir Hamza.
Bonsoir Walid.
Football pour l'entame de cette page. La sélection nationale Aprim affrontera demain en amical son homologue palestinienne.
Effectivement, ce sera à 18h au stade du 19 mai 56 de Annaba après leur large victoire jeudi dernier sur cette même pelouse de Annaba 3-0. Les protégés de Majid Bougaga vont affronter une seconde fois la sélection palestinienne. Les deux équipes qui préparent la phase finale de la Coupe arabe pour l'Algérie, tandis que la Palestine disputera le tour barrage de la Coupe arabe qui aura lieu au Qatar. Pour rappel, la sélection nationale algérienne est qualifiée d'office pour cette Coupe arabe. Elle va jouer dans le groupe D en compagnie de l'Irak, ainsi que les vainqueurs des deux matchs barrages, Bahreïn, Djibouti, ainsi que Liban, Soudan. La sélection nationale, cette date FIFA, c'est aussi la sélection nationale A, avec la décision du sélectionneur national Vladimir Petkovic, donc de ménager et de libérer deux joueurs pour cause de blessure. Il s'agit de Bardad Bounjah qui a été touché au genou lors du match face à la Somalie jeudi dernier, tandis que Youssef Bleyli souffre d'une blessure musculaire. Les deux joueurs ne seront pas concernés par le match de ce mardi pour le compte de la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à l'Ouganda au stade Hossein El Ahmed de Tizi Ouzou. Cette 10e journée a commencé aujourd'hui, ce dimanche, avec la victoire de l'Égypte face à la Guinée-Bissau 1-0. L'Égypte est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. Le Burkina Faso a battu l'Éthiopie 3-1. Le Burkina Faso qui est provisoirement deuxième au classement des 4 meilleures équipes pour disputer les barrages. L'invité surprise, c'est le Niger qui est allé s'imposer à Lusaka face à la Zambie 1-0. Et enfin, le Ghana qui a assuré aujourd'hui sa qualification grâce à sa victoire face aux Comores 1-0. En revanche, Madagascar ne disputera pas les barrages. Madagascar qui était tout proche des barrages a été battu lourdement par les Aigles du Mali sur le score de 4-1.
Du tennis de table également, Hamza, coup d'envoi demain du championnat d'Afrique des Nations.
Et oui, l'Algérie, la sélection nationale algérienne qui prendra part à ce rendez-vous africain prévu à Tunis au niveau de la salle Omnisport de Rades. Une sélection composée de 10 pongistes dont 5 dames et 5 chez les garçons. Cette compétition débutera donc demain. Elle est qualificative au championnat du monde prévu à Londres entre le 28 avril et le 10 mai 2026. Au total, il y aura 149 pongistes de 25 pays qui vont prendre part à ce tournoi.
Merci à vous, Hamza Rahmouni, pour toutes ces précisions. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Zine Khawa. Dans quelques instants, les couleurs du ciel, les nouvelles du temps avec Leïla Djoubour. Très bonne écoute.